Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Si j'en crois vos messages, vous êtes très nombreux à vous réjouir de cette semaine spéciale que Franck Ferrand consacre à Marie-Antoinette. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons depuis lundi poussé les portes de Trianon, puis fait connaissance avec le cercle intime de la reine. Aujourd'hui, c'est le goût de Marie-Antoinette, son style, la trace qu'elle a laissée dans l'histoire de la mode et dans celle des arts décoratifs que j'aimerais évoquer en compagnie d'une jeune historienne qui, au sein de l'équipe de conservation du château de Versailles, s'est beaucoup penchée sur ces questions, Hélène de l'Alex. Nous allons parler de Rose Bertin, de Léonard, mais aussi de Jacob et de Vesveler.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Florent qui vont savoir plus sur les voilettes que portaient autrefois les dames à leur chapeau.
Autant dire que nous allons rester dans la note. Alors, avec ou sans voilettes, c'est une femme éprise du plus grand luxe que je vous propose de retrouver maintenant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1770, Marie-Antoinette, qui donc est toute jeune, c'est une adolescente de 14 ans, elle entre dans son nouveau pays, elle quitte à ce moment-là sa robe de voyage pour revêtir une belle tenue à la mode de France. Cette fois, ça y est, la cour de Vienne appartient à son passé, c'est celle de Versailles qui désormais servira de décor à son quotidien. Alors pour elle, on peut dire qu'il s'agit d'un changement brutal. S'intégrer à la cour du roi Louis XV, un roi vieillissant, une cour avec sa mécanique lourde, ses rituels ancestraux, tout ça est une épreuve, nous l'avons vu, Evelyne Levert nous le disait hier, c'est une épreuve complexe pour cette future reine qui a l'intention d'emblée d'incarner un certain renouveau. Et s'il est un domaine dans lequel Marie-Antoinette va se montrer influente, à l'affût d'une certaine manière, c'est bien celui de la mode. Loin des reines effacées, extrêmement discrètes qui l'avaient précédée, on pense à la reine Marie-Thérèse qui n'a quasiment pas vécu à Versailles, du reste l'épouse de Louis XIV puisqu'elle est morte un an seulement après l'installation définitive de la cour à Versailles, et puis bien sûr à la reine Marie Leszczynska qui elle en revanche a vécu pendant plus de 40 ans dans cette cour dont elle était en quelque sorte la bonne âme. Évidemment le contraste est très grand, et autour de Marie-Antoinette, très vite, vont s'agglutiner les meilleurs artistes, les plus grands faiseurs, les marchands, enfin tous les gens qui ont quelque chose d'extraordinaire à vendre, bien entendu. Parmi ceux qui incarnent le goût de Marie-Antoinette pour la mode, évidemment, s'impose Rose Bertin. Elle occupe une place particulière. L'histoire de cette simple couturière d'origine picarde qui va connaître une réussite fulgurante et dans toutes les mémoires. Elle était née à Abbeville, cette Rose, en 1747, dans une famille tout à fait modeste. Elle était apprentie chez une marchande de mode de sa ville. Et alors qu'elle est adolescente, elle saisit une opportunité de venir travailler dans une boutique parisienne. On n'est pas très loin de la place de Grève, la place de l'Hôtel de Ville, si vous voulez, donc en plein cœur de Paris. Rose est déterminée, elle ne manque pas d'imagination, ni d'une certaine fantaisie du reste. Elle a surtout de l'ambition à revendre. Ce qu'elle veut, elle, c'est créer. Elle voudrait un jour faire la mode. Eh oui, mais elle va y arriver, figurez-vous. Elle entre d'abord dans un magasin un peu haut de gamme, où elle achève d'apprendre les ficelles du métier. Elle est remarquée assez vite par la princesse de Conti. Ça, c'est très important d'être repéré par un membre de la famille royale. C'est la princesse de Conti qui, dans un premier temps, va faire sa réputation. Et en 1773, elle ouvre sa propre boutique au Grand Mogol. On est dans l'ouest de la capitale. À cette époque-là, Rose Bertin a seulement 26 ans. Elle a de l'énergie à revendre. Ce n'est pour elle qu'un début, car bientôt, son nom va résonner sous les plafonds versaillais. Elle ne tarde pas à être présentée à la dauphine elle-même. Voilà ce que nous dit Bertrand Meyer-Stablet. La duchesse de Chartres introduit la jeune femme auprès de la reine, celle qui vient tout juste de devenir reine. Éblouie, Rose pénètre dans le cabinet blanc et or orné de sphinx et d'amour, de glace drapée de soie, avec la harpe et le piano, la cheminée de marbre rouge, les chinoiseries, les fleurs fraîches, un décor où elle reviendra souvent. Si je ne m'abuse, entre parenthèses, Je pense que les sphinx sont un petit peu plus tardifs, mais enfin peu importe, c'est le cabinet de la reine, de la jeune reine. Marie-Antoinette a été marquée, bien entendu, par cette éducation qui a été la sienne à Vienne, où on ne s'intéressait pas tellement aux questions de vêtements et de tenues. On ne peut pas dire que l'impératrice Marie-Thérèse soit très portée sur la question. C'est Simone Berthière qui le précise. Elle mettait docilement, elle parle de Marie-Antoinette, les robes que lui proposait sa dame d'Atour, quitte à les chiffonner, à les salir en s'ébattant parmi ses petits chiens. Seulement en grandissant, et puis surtout au contact de Rose Bertin, la reine, la jeune reine, va développer une véritable passion pour la mode, passion dont ses portraits, avec ses tenues très diverses, ne nous donnent qu'une idée assez partielle. Précisons que, selon les règles liées au corporatisme de l'époque, le rôle de Rose Bertin n'est pas de fabriquer les robes en tant que telles, mais seulement de les rehausser d'accessoires. Elle est marchande d'accessoires, de chapeaux, de gants, elle est modiste, comme on dit, et puis d'ornements. Et voilà d'où viennent les rubans et les plumes et tous ces colifichets dont Marie-Antoinette va bientôt s'éprendre. Très vite, la jeune reine est gagnée par le goût de paraître. Elle prend l'habitude de recevoir Rose deux fois par semaine pour ce que la jeune femme, qui est assez grisée par cette faveur extraordinaire, appelle le travail avec sa majesté. On avait connu l'alias du temps de Louis XIV où les secrétaires d'État venaient travailler avec le roi chez Madame de Maintenon. Et bien maintenant, c'est la modiste parisienne qui vient travailler chez la jeune reine. À quoi ? Eh bien à ce qu'on appelle la Gazette d'Atour, au choix des étoffes, des tissus, des fanfreluches, en tout genre. Ça fait très chiffon ce que je vous raconte, mais vous allez voir que ça va bien au-delà, évidemment. Pour la marchande de mode, c'est la fortune, bien entendu. D'autant plus qu'en infraction avec les usages et quitte à offusquer tout le monde, Rose ne se consacre pas uniquement au service de la reine. Normalement, à partir du moment où vous travaillez pour Sa Majesté, vous ne devez travailler que pour elle, mais pas du tout. Rose, au contraire, va faire de sa boutique le point de mire de la mode européenne. Elle devient une femme d'affaires, disons-le. Or, la reine alimente ses caisses. Elle fait des dépenses extravagantes. Les 120 000 livres, ce qui est considérable, dont elle dispose pour ses atours chaque année, bientôt ne vont plus suffire. Malgré les efforts de la comtesse d'Ossun, nous dit Juliette Trey, la comtesse d'Ossun est dame d'Atour, cette somme fut de plus en plus largement dépassée. En 1785, le budget s'élève à 226 000 livres. Presque la moitié de cette somme était destinée à Rose Bertin. Même à l'époque où la reine privilégie des tenues qui sont beaucoup plus simples, parce que vous allez voir que au tournant des années 1780, et puis encore plus avec l'affaire du collier en 85, la reine va faire de très grands retranchements sur ses dépenses, mais même à cette époque-là, évidemment, la tenue, tous les accessoires vont continuer de jouer un rôle essentiel. Alors il n'y a pas que les robes, il y a les coiffures qui vont avec, j'y viens dans un instant.
De l'opéra ballet Zémir et Azor d'André Gretry à l'instant sur Europe 1. Cette semaine est consacrée à Marie-Antoinette, dans le cœur de l'histoire, une icône de la mode, on l'a vu avec de magnifiques robes, mais pas que, il y a la coiffure aussi,
et
Franck.
Oui, bien entendu, alors Hélène Delalex va nous parler de ça dans un instant, de ces coiffures absolument extravagantes, la sophistication, les ornements qui attirent l'œil, bien entendu. Marie-Antoinette avait repéré tout ça déjà, dès son arrivée à la cour de France, elle est frappée par l'incroyable sophistication de la tenue des dames, et notamment d'une certaine dame qui était la favorite en titre du vieux roi Louis XV, qui était Madame du Barry, bien entendu. Alors, on sait que Marie-Antoinette n'aimait pas Madame du Barry, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il devait quand même y avoir une forme de fascination pour elle devant la ravissante égérie qui, bien entendu, multipliait les raffinements. Madame du Barry a joué un rôle essentiel dans cette histoire, on y viendra tout à l'heure, il faudra qu'on en parle, et puis qu'on parle de Madame de Pompadour aussi avant elle. On peut dire que les favorites de Louis XV avaient déjà institué habituées, une habitude de grandes dépenses, de luxe. Elles avaient fait cette espèce de réputation de la France dans le domaine des arts et du luxe. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit une reine de France qui prenne la succession et non pas une favorite. Là, évidemment, ça change un peu tout. Marie-Antoinette se laisse prendre à la tendance des coiffures inouïes. Elle est encore dauphine à l'époque où l'on bâtit pour elle une coiffure dite « monte au ciel ». Sa chevelure se déploie sur une trentaine de centimètres de hauteur. Et certains coiffeurs vont devenir peu à peu des espèces d'architectes, si l'on peut dire. Ils vont créer des espèces d'échafaudages de cheveux assez étonnants. Et il y a un nom qui émerge dans cet art délicat, c'est celui de Léonard. Alors, Léonard, c'est un pseudonyme. En fait, c'était étonnant, ça. Ça cache toute une fratrie de coiffeurs et de perruquiers qui ont donné du fil à retordre ou des cheveux à retordre, si je puis dire, à Pierre-Louis Lancel dans sa préparation de l'émission, parce que il n'arrivait pas à s'en sortir avec tous ces Léonards. Ils sont en vérité trois frères, dont le plus célèbre est Jean-François Autier de son vrai nom, hein, puisque c'est leur nom de famille. Ils sont originaires de Pamiers, mais on les voit évidemment qui se succèdent dans l'entourage de la reine pour essayer de la faire paraître le plus extraordinaire possible. C'est Christine Orban, dans un ouvrage qui va paraître d'ici quelques jours, qui le décrit, ce Jean-François, propre, agité, le nez retroussé, coiffeur illuminé. Les dames se l'arrachent, il arrive en retard, il est irrévérencieux, bouscule les duchesses, elles adorent ça. Bon, bref, c'est la figure du coiffeur tel que nous l'aimons, c'est le Figaro, si je puis dire. Léonard va gagner sa place auprès de la reine par des audaces assez étonnantes. Et quand son art s'allie à celui de Rose Bertin, ça donne des trésors d'inventivité capillaire. Rose et Léonard excellent dans la conception de ce qu'on appelle les poufs. Mais ce sont ces espèces d'immenses armatures conçues à partir de coussins et qui sont capables de supporter à la chevelure toutes sortes d'éléments de décor, des fruits, pourquoi pas, des petits animaux empaillés, des personnages, de la végétation, des maquettes de vaisseaux. Oui, ça prend des proportions qui deviennent inouïes. Il n'y a bientôt plus guère de limites pour Léonard et ses concurrents. Tout semble à peu près réalisable et, disons-le, tout est à peu près réalisé. Je cite justement Hélène Delalex. « Bientôt, c'est toute l'actualité qui s'invite sur les têtes des élégantes qui arborent avec panache la coiffure à l'indépendance ou au triomphe de la liberté en 1779 ou la coiffure à la montgolfière en 1778. L'année suivante, Marie-Antoinette fiche dans ses cheveux une fleur de pomme de terre en hommage à la découverte de Parmentier. » Et après le succès sur Louis XVI de la nouvelle technique médicale de l'inoculation contre la petite vérole, Marie-Antoinette porte un incroyable pouf à l'inoculation, orné d'un olivier chargé de fruits autour duquel s'enlace un serpent menacé par une massue enguirlandée de fleurs et un soleil levant, symbole de la science triomphant du mal. Eh bien, moi j'ai envie de dire, bon, on est dans la futilité la plus inouïe, et en même temps, la reine reste d'une certaine manière dans son rôle. Elle défend un certain nombre d'idées et un certain nombre d'innovations dans la société. Ça va donner quand même des délires, toute cette histoire. On va jusqu'à installer dans les coiffures, dans les poufs, de minuscules récipients d'eau pour permettre aux fleurs qu'on a piquées dedans de ne pas dépérir. Vous imaginez un peu, on se promène avec un jardin sur la tête, disons les choses. C'est encore Hélène Delalex qui raconte. À Vienne, la redoutable mère donc de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, est affligée lorsqu'en 1775, on lui apprend que sa fille porte une coiffure de 36 pouces de haut. 36 pouces, ça fait presque 88 centimètres. Ornée de plumes et de rubans à foison, elle la met en garde. « Vous savez que j'étais toujours d'opinion de suivre les modes modérément, mais de ne jamais les outrer. Une jeune et jolie reine pleine d'agréments n'a pas besoin de toutes ces folies, » écrit l'impératrice. « Au contraire, la simplicité de la parure fait mieux paraître et est plus adaptable au rang d'une reine. » Mais Marie-Antoinette n'en fait qu'à sa tête. Les souhaits de la jeune reine, enfin qui d'ailleurs devient, on va l'appeler la reine maintenant, ses souhaits évoluent au cours du temps. Il va falloir que les coiffeurs s'adaptent au changement, bien entendu. Et quand Marie-Antoinette s'aperçoit, après la venue au monde de sa première fille en 78, que ses cheveux ont tendance à tomber, elle décide d'adopter une coiffure un petit peu plus simple, dite à l'enfant. Léonard, lequel je vous laisse deviner, est aussi un homme de confiance pour la reine. Il va rester longtemps auprès d'elle, même dans les heures difficiles des premières années révolutionnaires. Et en juin 1791, alors qu'elle est plus ou moins en résidence surveillée aux Tuileries, la reine va lui confier un rôle dans cette fameuse tentative d'évasion qu'on appelle la fuite à Varennes, qui était une fuite vers Montmédy, peut-être vers le Luxembourg, et qui s'est tragiquement arrêtée à Varennes. Léonard est chargé, en lien avec le duc de Choiseul, de partir en avant, de transporter des bijoux, ainsi que le costume de cérémonie du roi. Et là, vous ne m'empêcherez pas de penser aux images somptueuses qui clôture de façon très poétique le beau film La nuit de Varennes d'Ettore Scola, où l'on voit Anna Chigoula, en l'occurrence, hein, on a un petit peu transformé la réalité historique, habillé un mannequin du costume extraordinaire que devait porter le roi pour la revue d'armes qu'il ne tiendra jamais par définition. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que si les dames s'amusent beaucoup avec la mode, les messieurs ne sont pas toujours en reste.
Robe, coiffure, la reine Marie-Antoinette était une icône de la mode. Franck Ferrand vous en parle jusqu'à 15h sur Europe 1 et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
On en parle cet après-midi dans cette semaine consacrée à Marie-Antoinette sur Europe 1. C'était une icône de la mode. On l'a vu, elle aimait les belles robes, les belles coiffures. Elle avait le goût du beau, Franck.
Et oui, et au-delà, bien entendu, de tout ce qui concerne la parure, ce sont les arts décoratifs qui vont profiter de la manne providentielle d'une reine qui, vous l'aurez compris, en tout cas dans les premières années de son règne, va jeter l'argent par les fenêtres. Et bien entendu, on est, ne l'oublions pas, à un moment où la tradition dans tous les domaines des arts décoratifs français est à un niveau d'excellence suprême. C'est-à-dire qu'on a atteint la perfection, on va dans des sommets, chacun se dépasse. Évidemment, lorsque ce sont des commandes royales qui sont là pour soutenir l'ambition des artisans, qu'on pourrait même appeler là des artistes, ça peut aller très loin. Dans ce domaine, le goût de Marie-Antoinette pour les créations d'un raffinement inouï, ce goût est affirmé assez vite. Mais alors, c'est un goût qui n'est pas tellement éloigné de celui qu'elle avait par ailleurs pour les accessoires de Rose Bertin, puisqu'on va voir fleurir, si j'ose dire, au sens propre sur les meubles, les fameuses plumes de paon, les rubans, toutes les corbeilles, enfin, etc. Tout ce qui faisait, en quelque sorte, la fantaisie des coiffures et des tenues de la reine. On les retrouve sur les étoffes du mobilier, dans les tentures, bien entendu. On les retrouve aussi carrément sculptées dans le bois même des sièges et des meubles. Et aussi, bien sûr, dans les ornements, puisqu'on est à la grande époque de la boiserie, de la sculpture sur bois. Et nous en avions parlé l'année dernière, rappelez-vous, cette émission que nous avions consacrée aux grands, aux frères Rousseau, etc. Eh bien, chez Marie-Antoinette, tout ça prend un petit côté. Alors, que je m'étais permis dans le dictionnaire amoureux de Versailles, de qualifier d'esprit plumes et chiffons, et ça m'a valu beaucoup de haine et beaucoup de critiques et beaucoup de lettres désagréables, mais ce que je voulais dire, vous comprenez ce que je veux dire, un petit côté mercier quand même, il faut bien le dire, dans ce goût de la reine, et on n'ose imaginer ce qu'aurait pu devenir, avec les mêmes moyens et les mêmes artisans, le grand goût de la fin du XVIIIe siècle, si Marie-Antoinette, justement, au lieu de les orienter vers les plumes, vers les fleurs et vers les rubans, les avait orientés vers des inspirations encore plus nobles. En matière de mobilier et d'objets d'art, écrit Hélène de Lalex, les commandes de la reine vont croissant tout au long de son règne, meubles meublants disposés contre les boiseries dont ils sont le prolongement et meubles volants qui peuvent être déplacés aisément, fauteuils à la reine ou cabriolets recouverts de précieuses étoffes, commodes de marqueterie de bois précieux, consoles ornées de bronze doré et d'incrustations variées. Pour ces commandes, Marie-Antoinette passe par le service du garde-meuble de la couronne, mais aussi, et là, ça va faire scandale, par son propre garde-meuble, une institution qu'elle parvient à rendre indépendante et qu'elle dote de moyens importants. On est quand même en présence d'une souveraine qui ne respecte pas, nous le voyons avant-hier à propos de Trianon, hier à propos de son cercle privé, c'est exactement la même chose dans ses dépenses, elle ne respecte pas les traditions de la cour, les habitudes, etc. Elle se crée son propre garde-meuble, ce qui évidemment fait râler pas mal de monde à Versailles, vous l'imaginez bien. Si la reine a un goût assez tranché en matière de décor, ça ne l'empêche pas de changer assez souvent d'avis. Et voilà l'exemple que nous donne Hélène de Lalex. En 1779, désirant rajouter rajeunir le décor de son grand cabinet intérieur, elle commande un meuble extraordinaire, une précieuse soierie en satin blanc brochée d'arabesques de fleurs et de médaillons, pour les rideaux, portières, tentures murales, garnitures des sièges, du lit, de l'écran de cheminée ou du paravent. Cette tenture d'une finesse prodigieuse, d'une valeur de plus de 100 000 livres, est pourtant retirée moins de 4 années plus tard, lorsque Marie-Antoinette décide de faire tout mettre en boiserie. Ça, c'est en 1783, et voilà les fameux sphinx dont nous parlait tout à l'heure Meyer-Stablet. Une chose est certaine, la reine fait travailler tous les grands artistes, enfin presque tous les grands artistes du royaume, et particulièrement une lignée d'ébénistes. Il faut citer là Georges Jacob, artiste extraordinaire, issu de sa lignée bourguignonne d'ébénistes, qui va connaître une ascension impressionnante. Hein. Il est né en 39, il est apprenti menuisier à l'âge de 16 ans, il va développer une maîtrise incroyable de l'ébénisterie, c'est un virtuose de la sculpture sur bois, il ouvre bientôt son propre atelier, au-delà de la sculpture et des ornements. Ce qu'il faut souligner, c'est le génie, là je crois que le mot n'est pas trop fort, le génie d'un Georges Jacob pour les proportions et pour l'articulation de ce qui fait notamment l'âme d'un siège. Il sait placer chaque pied, il sait placer chaque sabot de pied, chaque accotoir exactement là où il faut pour donner une sorte de vie intime au meuble et pour en faire un chef-d'œuvre impérissable au niveau, là on peut dire, d'une œuvre d'art. Pierre Gelberg note « Les mémoires du garde-meuble de la couronne font état d'une quantité inimaginable de sièges livrés par Jacob à la reine et au prince. Il travaille peu pour le roi. » Ça, c'est entre parenthèses, c'est quand même intéressant de le souligner. « Comme c'est presque toujours le cas, dit-il, les commandes ne concernent pas uniquement le mobilier d'apparat, mais des sièges d'usage courant jusqu'aux bidets et aux chaises d'affaires, plus vulgairement appelées aujourd'hui chaises percées. » Avec ces lignes tellement particulières et cette inspiration néoclassique qu'il maîtrise mieux que quiconque, Jacob va renouveler complètement les décors de Trianon, Versailles, Rambouillet et Fontainebleau ou Saint-Cloud. Nous parlions d'ailleurs dès lundi avec Alexandre Gady du mobilier qu'il livre pour la célèbre laiterie de Rambouillet, avec bien d'autres artistes. Et c'est là qu'il faudrait bien sûr parler de Riesner, hein, mais Riesner travaille au moins autant pour le roi, lui. Et bien sûr de Weisweiler et de tous ces ébénistes qui vont transformer le mobilier de l'époque en de véritables bijoux, au point qu'ils surchargent tout cela de bronze doré qui relève de l'orfèvrerie, et que les ébénistes eux-mêmes se mettent à sculpter des guirlandes de bois tellement fines et tellement précises qu'elles pourraient passer pour du bronze. On est à des sommets de raffinement qu'on n'avait jamais connus auparavant et qu'on ne connaîtra plus jamais, disons-le. Vous voyez donc un peu ces deux facettes de Marie-Antoinette sur lesquelles nous allons revenir et que nous allons développer maintenant. D'un côté, cette jeune reine un peu inconséquente, hyper dépensière et à laquelle Louis XVI cède à peu près tous ses caprices et qui n'investit peut-être pas toujours dans ce qu'il y peut y avoir de plus relevé dans l'art ou dans le goût. Et puis d'un autre côté, quand même, cette femme grâce à qui les plus grands artistes de son temps se surpassent, se dépassent, vont plus loin. Le but est non seulement d'obtenir les commandes de la reine, ça c'est encore assez mercantile, le but c'est de lire dans son regard cette étincelle pour laquelle il travaille. Bonjour Hélène Delalex.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être là. Je vous ai beaucoup cité dans ce récit, mais maintenant on va vous entendre, c'est encore beaucoup mieux.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Elle aimait les belles choses, Marie-Antoinette, on l'a vu avec vous, Franck Ferrand, ses robes, ses coiffures, les meubles. C'était une icône de la mode et vous recevez, pour nous parler de cette Marie-Antoinette-là, Hélène Delalex, attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles, en charge de la Galerie des Carrosses, historienne de l'art, spécialiste du XVIIe et XVIIIe siècle.
En parenthèse, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les voitures de la reine, hein, parce qu'elles étaient aussi luxueuses que le reste. Malheureusement, on n'en a pas conservé.
Ça, et c'est le carrosse est un chef-d'œuvre d'une synthèse de tous les arts décoratifs ensemble. Tous les artisans d'art travaillent sur un carrosse.
Ah oui, on peut dire que le carrosse, c'est le chef chef-d'œuvre absolu. Malheureusement, on en a très peu du XVIIIe siècle en France et aucun de Marie-Antoinette, disons-le.
Mais nous avons les petits carrosses d'enfants.
Et voilà.
Des deux dauphins, Louis-Charles et Louis-Joseph.
Et puis nous avons des traîneaux aussi, un petit peu plus anciens.
Et des traîneaux Louis XV, absolument.
Alors, vous avez écrit à Hélène de Lalex, entre autres, un ouvrage magnifique chez Flammarion qui est un bonheur. C'est dans cette collection que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de fois parce que c'est devenu assez rare maintenant les jolis ouvrages et les éditeurs qui prennent le temps de très bien éditer quelque chose. Et là, c'est un bonheur. Ça fait partie de ces livres qu'on les ouvre et on rêve complètement. C'est d'un luxe, d'un raffinement, c'est inouï. Ça s'appelle Un jour avec Marie-Antoinette. C'est dans un coffret, un beau livre cartonné, doré sur tranche. Enfin, tout ça est somptueux. C'est bien que Flammarion fasse ça, entre parenthèses, en coédition avec le château de Versailles. Et quand on feuillette ce livre, on comprend votre propos. J'ai presque envie de dire, et je ne veux pas diminuer votre mérite, mais ça se passerait presque de commentaires. Quelle profusion extraordinaire!
Oui, absolument, et dans tous les domaines. Et finalement, ce que vous disiez en introduction, c'est tout à fait juste. Marie-Antoinette, elle commande elle-même ses meubles par son propre garde-meuble. Et finalement, ce qui va étonner, c'est en quelque sorte cette bicéphalie de la cour.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que le roi n'est plus maintenant l'unique ordonnateur de tout, évidemment des choses politiques, mais des choses de l'art également, et des fêtes. La reine donne ses ordres de par la reine
non
dans son royaume de Trianon.
Non seulement il n'est pas le seul, mais il n'est plus le principal. C'est
il
elle qui prend la place.
La reine est au premier plan, elle donne des fêtes d'une splendeur extraordinaire à Trianon, et elle commande ses propres meubles. Et vous en avez parfaitement parlé lundi avec Alexandre Galli. Évidemment, elle est la première ordonnatrice des jardins de Trianon.
Dans une lettre de la toute jeune reine au comte de Rosenberg, on lit cette phrase terrible. Mes goûts ne sont pas les mêmes que ceux du roi qui n'a que ceux de la chasse et des ouvrages mécaniques. Vous conviendrez que j'aurais assez mauvaise grâce auprès d'une forge. Je n'y serais pas Vulcain et le rôle de Vénus pourrait lui déplaire beaucoup plus que mes goûts qu'il ne désapprouve pas. Qu'il irait presque parfois jusqu'à approuver même. Il admire sa femme pour son raffinement.
Il admire et Marie-Antoinette, elle le charme comme depuis l'enfance, elle charme tout le monde. L'abbé de Vermont, son éducateur à Vienne et à Schönbrunn, le raconte bien quand Marie-Antoinette, déjà petite, espiègle, pleine de jovialité, elle charme ses professeurs pour échapper aux leçons. Et puis ensuite, elle charme le roi et la cour pour échapper aux conventions. Et là, évidemment, ça aura des conséquences différentes. Mais il ne sait rien lui refuser. Et entre cette phrase traduit très bien, cette, on pourrait dire, erreur de casting européenne, entre Louis XVI et Marie-Antoinette qui sont absolument différents évidemment dans leur goût. Elle est dépensière, il aime l'épargne, il est solitaire, elle aime la compagnie et même dans leur corps, ce grand colosse d'1m94 et cette toute jeune et gracile Marie-Antoinette.
Les robes et les vêtements de la reine ont-ils été sauvegardés? Et si oui, où pourrait-on les voir? Nous demande Léonore via Twitter.
C'est une excellente question qui me permet d'aborder un point. On n'a pas du tout la tradition en France de conserver
et
les
voilà.
grands costumes.
Contrairement à des pays plus à l'Est, notamment.
Contrairement au cours du Nord, la magnifique exposition qui a lieu à Versailles il y a quelques années, costumes de cour, on le voyait, c'est splendeur de brocart, de broderie, de diamants, de ruchers, etc. C'était exclusivement des collections du nord de la France. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette tradition par an de donner toute la garde-robe à la première femme de chambre qui elle-même soit la gardait, soit la dépeçait pour la vendre. Et ainsi se sont finalement dispersées les collections des costumes de cour.
Alors, j'ai peut-être d'ailleurs accordé trop de place à Rose Bertin tout à l'heure, mais ce personnage dont on a beaucoup, beaucoup parlé, elle est devenue presque aussi célèbre que sa souveraine, cette Rose Bertin a-t-elle joué le rôle moteur qu'on lui attribue, depuis Pierre de Nolhac notamment? Est-ce que c'est bien elle qui a lancé Marie-Antoinette dans la mode? Ou est-ce que si elle n'avait pas été là, la reine aurait trouvé quelqu'un d'autre, d'après vous?
Oui, comme le montre très bien Michel Sapori dans l'ouvrage qu'elle lui a consacré, on a finalement une symbiose entre deux personnes qui se sont bien trouvées. D'un côté, on a Rose Bertin, et vous l'avez rappelé, qui est quand même le sens des affaires, qui amasse une fortune considérable, et qui propose des créations toujours nouvelles à Marie-Antoinette, qui elle-même est absolument éblouie devant ses créations et qui ne résiste pas. Et Rose Bertin, finalement, elle trouve en Marie-Antoinette un mannequin idéal, je dirais même une vitrine idéale de ses nouveaux produits de luxe, puisque Marie-Antoinette, elle est belle, toute l'Europe la regarde, et toute l'Europe ensuite va vouloir prendre modèle sur elle. Et la conséquence va être que si toutes les femmes veulent être habillées comme Marie-Antoinette, finalement, Marie-Antoinette se retrouve habillée comme toutes les femmes. Et ça, ce n'est pas normal pour une reine de France, qui normalement se distingue par son costume, qui signale évidemment le corps de la reine.
J'ai parlé d'un basculement dans les années 80. On voit quand même la reine évoluer vers un goût plus simple en matière vestimentaire, hein, je précise. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres domaines.
Tout à fait, ça se fait en deux étapes. D'abord, elle proclame que le grand habit de cour, vous savez que ses corps baleinés, ses extraordinaires paniers recouverts de jupons ornés, brodés de toutes sortes d'ornements, eh bien c'est extrêmement contraignant pour le corps de la femme et elle le réserve dans des occasions exceptionnelles. Et elle le remplace par ce qu'on appelle la robe à la française, qui de silhouette a la même impression que le costume de cour, mais avec ce grand dos flottant dégage la taille et est beaucoup plus confortable. Donc déjà, on ne porte plus le costume
plus
de cour
souple, c'est systématiquement. Plus léger, voilà, c'est ça.
Et puis, comme vous le rappeliez, à partir des années 1780, et cette nouvelle vogue, je dirais beaucoup plus générale, de ce retour à la nature par les ouvrages de Rousseau, par la création du Petit Trianon, eh bien la reine va adopter une mode à l'anglaise, d'ailleurs je le précise, c'est une reine qui regarde vers l'Angleterre, la modernité, et pas vers l'Italie, le passé,
et voilà,
ça c'est déjà
ça
très nouveau,
tout.
Et elle adopte donc ce qu'on appelle des robes à l'anglaise, qu'on va vite renommer robes à la reine, qui sont des morceaux uniques de tissu de linon ou de mousseline de soie, que l'on noue, comme on dit, à l'enfant, c'est-à-dire qu'un large ruban de couleur dans le dos et que le se pique de porter au alors toujours le naturel déguisé bien sûr mais au naturel avec des cheveux qui tombent souplement sur les épaules et un chapeau de paille piqué de fleurs naturelles. C'est ce qu'on appelait à l'époque le négligé chic, ce qu'on pourrait être le bobo aujourd'hui en quelque sorte parce que ça coûte très cher finalement un faux négligé. finalement ça va apparaître très fortement en 1783 au Salon du Louvre, lorsque
voilà.
Madame Vigée-Lebrun expose ce salon, la reine en chemise, parfaitement à la mode du jour, qui va faire un scandale. Parce que qu'est-ce que c'est que ce salon ?
C'est la première fois qu'une reine de France ose se présenter comme ça. Hein.
Absolument. Elle est finalement, elle est comme si on la surprenait dans son intimité. Le corps de la reine finalement s'offre et ça va faire un véritable scandale. On va être obligé de retirer le portrait, de le remplacer par Marie-Antoinette à la Rose et avec effectivement un costume beaucoup plus convenable et des bijoux qu'elle avait abandonnés.
On peut parler d'une désacralisation du corps de la reine à ce moment-là.
Mais oui, absolument. Et vous évoquiez sa mère, l'impératrice, qui voit tout de Vienne où elle est, parce qu'elle a des espions, mais parce qu'elle analyse aussi. Et elle voit bien, finalement, que Marie-Antoinette supprime la barrière qui la protège. Cette barrière de distance, de solennité, d'immuabilité des choses, qui finalement s'effrite avec finalement ces costumes qui n'en sont plus. Plus rien ne distingue la reine. Même plus son costume, et non seulement elle est habillée comme toutes les femmes de la cour, mais en plus elle n'est presque plus habillée.
Alors nous voyons hier que du fait de ces privautés qu'elle accordait à certains, ou plutôt à certaines, les ragots allaient bon train et qu'on s'est mis très vite à écrire des horreurs sur elle et beaucoup de littérature pornographique, si à côté de ça l'image même qu'elle peut donner au plus grand public se désacralise, tout ça explique quand même très bien ce qui a pu se passer au moment de la Révolution. C'est ce qui a rendu possible les excès de la Révolution.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Plus. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Marie-Antoinette, la mode et son goût pour les belles choses. On en parle cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h avec votre invité Franck Ferrand, Hélène Delalex, attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles, en charge de la galerie des carrosses, historienne de l'art, spécialiste des 17e et 18e siècles et auteur d'Un jour avec Marie-Antoinette aux éditions Flammarion.
Je suis en train de feuilleter, c'est un bonheur. On est dans ces porcelaines de Sèvres inouïes, dans ces bronzes ravissants, dans toutes ces boiseries invraisemblables. Des pièces sans doute très élégantes d'ameublement et de décoration, mais nulle part très riches, le seul goût à la place du luxe attendu, écrit Pierre de Nolhac, ce qui est d'une fausseté, entre parenthèses, inouïe, car on est dans le luxe le plus effréné, en vérité.
Vous avez absolument raison, c'est une phrase que j'adore, parce qu'évidemment, on a tellement fantasmé ce Petit Trianon. Il y a des textes où on dit que tout le trésor de la cour de France est là-bas, on a des colonnes torses avec des rubis et des saphirs, donc on imaginait tout, alors que c'est une petite maison de campagne, très simple, comme le dit Pierre de Nolhac, mais évidemment, ce faux naturel qui est d'une sophistication absolument inouïe avec les meilleurs artisans de la couronne.
La restauration des maisons de la reine au hameau va permettre bientôt au public de saisir justement cet extraordinaire artifice, puisque derrière ces façades faussement fissurées, ces façades un petit peu qui se veulent paysannes, qui se veulent très rustiques, avec ces toits de chaume, etc., Vendrosau en l'occurrence, derrière tout ça se cachent des boiseries, des marbres, des intérieurs d'un raffinement inouï en vérité.
Oui, absolument. C'est un art qui se déguise,
qui se déguise
de naturel.
C'est exactement ça. Alors, la reine a quand même, grâce à cette espèce de mécénat qui est le sien, de patronage des arts, et notamment des arts décoratifs, elle va quand même aider un certain nombre de très grands artistes. Il n'y a pas que Rose Bertin, il y a aussi Georges Jacob. C'est pour ça qu'il fallait parler de lui, bien sûr.
Oui, et notamment à Trianon, on a parlé du mobilier à Versailles. Le mobilier à Trianon, qui sont vraiment des commandes personnelles, on atteint là un art d'une sophistication absolument inouïe. Et par exemple, le mobilier aux épis, que vous évoquiez, qui est sans doute à Versailles le seul mobilier avec une garniture originale que l'on protège évidemment maintenant du rayonnement lumineux.
La garniture, c'est donc les tissus qui sont sur le meuble,
effectivement,
lui-même,
qui sont la partie la plus fragile du meuble. Et sur ce mobilier aux épis, à la fois sur le bois sculpté mais aussi sur la tapisserie, se déploie un nouveau répertoire décoratif. Alors inspiré de la nature, c'est-à-dire qu'on quitte les bouquets de fleurs qu'on avait à Versailles, mais là on a des fleurs au naturel, des chèvrefeuilles, des barbeaux, des pavots sauvages, qui sont vol-au-vent, c'est-à-dire un semis de fleurs sur un fond crème. Et on a, et bien notamment dans ce mobilier aux épis, les montants du siège avec des grandes épis de blé et même des pommes de pin qui les somment. Donc on est dans une fantaisie vraiment tout à fait inouïe à la veille de la Révolution.
Marie-Antoinette devient reine de France en 1774. Elle quitte Versailles, ça évidemment, en octobre 1789. Bon, cela dit, les intérieurs de la reine aux Tuileries sont également d'une somptuosité remarquable, mais différente, un peu plus sobre. On va dire que de 74 à 89, il y a 15 années, c'est pas beaucoup 15 années pour produire toutes ces merveilles. Ça veut dire qu'on offrait à la reine de nouveaux meubles à admirer, de nouvelles parures, etc., quasiment tous les jours.
Oui, il y avait une véritable effervescence de ces arts décoratifs. Et puis, la mode est de plus en plus prégnante. C'est-à-dire que, on le voit aussi avec l'habillement, ce qu'on a adoré une année, eh bien, on le déteste le lendemain. Et donc, les commandes, finalement, se remplacent les unes les autres. Et ceci, évidemment, dans tous les domaines.
Est-ce qu'il y a une volonté politique d'entretenir le travail des manufactures, etc.? On sait que lorsque Madame de Pompadour, par exemple, fait venir à Sèvres les artisans de Vincennes pour créer ces porcelaines françaises, qui doivent, et c'est la mission qu'elle leur confie, qui doivent bientôt concurrencer les porcelaines chinoises, il y a une volonté, alors là, incontestable, d'aider la haute tradition française, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a la même volonté chez Marie-Antoinette?
Oui, Marie-Antoinette n'est en quelque sorte que le point extrême de ces industries de luxe savoir-faire français, comme on dit, qui étaient initiées par Louis XIV et, comme vous le rappeliez, qui ont un caractère économique. C'est ce qu'on appelle le colbertisme. C'est-à-dire que cet art français, ce mobilier, notamment les gobelins, l'industrie de la savonnerie, les glaces, etc., eh bien, ça rapporte de l'argent dans les caisses du royaume parce que on stoppe les importations, on développe les exportations. Il faut dire qu'à l'époque de Marie-Antoinette, l'Europe est inondée des produits français. Donc ce n'est pas seulement la fantaisie de la reine. Derrière, il y a une réelle économie en marge de cette industrie de luxe qui est toujours l'image de la France aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce qui s'est créé sous Louis XV et sous Louis XVI, on va dire plutôt sous Madame de Pompadour et sous Marie-Antoinette, c'est ce dont on bénéficie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que cette image planétaire d'une France au sommet des arts décoratifs, du luxe, l'industrie du luxe, nos grandes sociétés de luxe actuelles, c'est quand même là qu'elles sont nées. Faudrait peut-être pas oublier le parfum d'ailleurs, hein, puisque la parfumerie fait partie de cette image de la France et que Marie-Antoinette y était très sensible.
La haute coiffure, la haute parfumerie, la haute couture, comme on l'a dit, eh bien, c'est encore aujourd'hui l'image de la France. Et alors, on appelait ça le savoir-faire français. Aujourd'hui, on peut dire le made in France. Mais on le sent encore tout à fait aujourd'hui.
On parlait du temps de Louis XV pour évoquer Versailles. On parlait de la cour parfumée. Et c'était une cour qui se parfumait surtout d'ambre, disons-le, et de massepain. Donc des parfums un peu capiteux. Marie-Antoinette va faire révolution. va révolutionner tout ça.
Elle va le révolutionner aussi grâce à Jean-Louis Fargeon, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Louis XIV et Louis XV, c'est une odeur très entêtante. C'était une odeur qui masque. Et la parfumerie est encore intrinsèquement liée à l'apothicairie et à la médecine. À partir de Jean-Louis Fargeon, qui est originaire de Montpellier, qui est la capitale de la parfumerie française, il acquiert un savoir-faire dans l'art de la distillation qui progresse. Et donc, on arrive à des combinaisons odoriférantes beaucoup plus subtiles. Et donc, on ne masque
beaucoup plus vrai, tout simplement.
Et donc on ne masque plus, on révèle, et sur sa palette, parce qu'on connaît tout, il a écrit l'art du parfumeur et on connaît sa palette, et eh bien peut-être aux tubéreuses, aux musques très entêtants du siècle précédent, succèdent la violette, la lavande, le jasmin et la rose. Et encore aujourd'hui en parfumerie, le jasmin et la rose sont les deux fleurs les plus utilisées.
Vous voyez, l'autre jour j'étais en l'occurrence au Grand Trianon, mais peu importe, à la boutique, vous savez, je voyais des petites dames chinoises qui faisaient une véritable provision de bougies Marie-Antoinette, de pendentifs Marie-Antoinette. Elles achetaient des petits biscuits Marie-Antoinette, etc. Je ne citerai pas la marque, mais tout le monde aura compris. C'est quand même, c'est une fascination qui demeure, hein, qui est toujours très, très actuelle et très vivante, somme toute.
Oui, Marie-Antoinette, c'est, j'allais dire, même dans l'imaginaire collectif, c'est la reine. Vous le disiez, on va l'appeler la reine tout à l'heure. Oui. Mais même si... Enfin, elle figure comme la dernière reine, en fait. Elle a cette image
reine de l'ancien régime, en
de
tout cas.
L'ancien régime, et elle a cette image, eh bien, finalement, d'un âge d'or. Vous employez plusieurs fois le terme perfection, c'est tout à fait juste. Comme ce moment de perfection de l'art français, pour employer le titre d'un livre très célèbre sur l'art de Louis XV, ce moment de perfection de l'art français, au summum des arts, et finalement qui, voilà, ensuite qui est pris comme ça dans un âge d'or à jamais disparu. Mais elle figure comme la dernière reine. Elle incarne la reine, c'est, voilà, on a, comme Louis XIV n'a pas besoin de le préciser, c'est la reine.
Alors autant pour ce qui est des toilettes, vous nous l'avez dit, malheureusement, il faut aller voir les dessins et les portraits, puisqu'on n'en a plus. En revanche, on possède tous les grands décors. Ils sont à Versailles, ils sont sous votre responsabilité collective, chère Hélène Delalex. Ça, c'est merveilleux quand même. On peut voir encore toutes les splendeurs conçues pour Marie-Antoinette. Son cabinet doré a été restauré il y a quelques années. C'est un chef-d'œuvre absolu. La Méridienne, l'année dernière.
Le dernier cabinet restauré où on a un raffinement absolu. En plus, la Méridienne, évidemment, sur...
Ce qu'on appelle la Méridienne, il faut expliquer en deux mots. C'est un petit cabinet octogonal dont le principe est que c'était l'endroit où la reine faisait sa sieste. D'où le nom de Méridienne.
Absolument. Et dédié à la naissance du dauphin. Donc tout est sur le thème de l'amour, avec par exemple le pan de Junon entrecroisé à des guirlandes de fleurs, des grands dauphins qui apparaissent dans un chœur, et puis évidemment la présence ici du dauphin tant attendu, évidemment.
Et là, ces sculptures sur bois qui sont au niveau d'orfèvrerie de bronze, en fait.
Sculptures
c'est inouï.
Hein. Sur bois. Alors, on a toujours cet art du trompe-l'œil aussi. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, des rubans. On a ce qu'on appelle le goût tapissier, c'est-à-dire que sur les meubles en bois et bronze doré, on retrouve, et même, je pense par exemple au coffret à bijoux de Martin Carlin, de la Dauphine, où il imite les irrégularités de la laine, parfois un petit brin qui, dans le bronze doré.
C'est incroyable.
Et on a par exemple dans la Méridienne, sur les glaces, du bronze doré directement appliqué sur les glaces. On a vraiment une très très grande finesse. On appelait ça l'harmonie du tout ensemble, en
c'est
fait.
Ça, hein, oui.
Le mobilier,
une sorte de grand coordonné sublime.
Oui.
Tout se répond, tout correspond, tout respire à une même altitude qui est très élevée, qui a fait rêver les contemporains et tous ceux qui se sont suivis, et qui fait encore aujourd'hui rêver le monde entier, il faut le dire. Il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais il nous reste très peu de temps. On va juste en dire un mot pour faire rêver ceux et celles qui nous écoutent. C'est la bijouterie quand même, il y a quelques joyaux autour de Marie-Antoinette.
Oui, et c'est sans doute peut-être l'image qui lui colle le plus à la peau. Si elle arrive à Versailles, déjà avec une cassette extrêmement bien garnie, d'ailleurs on a un inventaire très précis des bijoux de la Dauphine le lendemain de son arrivée, le 17 mai, et puis Louis XV est très large, il lui offre tous les bijoux de son ancienne belle-fille, Marie-Joseph de Saxe, donc elle a vraiment une cassette vraiment digne de son rang. Et elle va quand même procéder à des achats tout à fait extraordinaires dans cette période 70-78 où elle est prise dans une sorte de spirale de dépenses, et notamment deux bijoux, des paires de girandoles avec six énormes diamants pour 450 000 livres. On parlait beaucoup d'argent tout à l'heure. 450, pour 100 000 livres, vous aviez un beau château.
Oui, c'est
absolument
c'est le prix de plusieurs domaines.
Au point qu'elle demande à Louis XVI de l'aider à le payer sur sa cassette et que Louis XVI fait un prêt sur 4 ans.
Non, mais c'est incroyable.
Et l'année suivante, en 77, un bracelet extraordinaire pour plus de 250 000 livres. Elle se fait gronder par sa mère qui la prend. Et finalement, c'est le piège qui va être tendu par l'affaire du collier, où elle est parfaitement innocente. Mais effectivement, ses modes de vie et ses réelles commandes vont donner prise à de tels soupçons. Et ce sera 85, l'affaire du collier.
Merci beaucoup Hélène Delalex. On pourrait continuer. On est bien dans cet univers d'extrême luxe et d'extrême raffinement finalement. On la comprend très bien cette Marie-Antoinette. Je rappelle le titre de votre très joli ouvrage publié sous coffret par Flammarion, Un jour avec Marie-Antoinette, en coédition avec le Château de Versailles. Je peux citer également un grand livre, un grand album, La mode à la cour de Marie-Antoinette de Juliette Trey, coédité par Gallimard et le Château de Versailles l'année dernière. Et puis, je l'ai cité, même si le livre n'est pas encore paru, mais ça ne saurait tarder, c'est dans les jours qui viennent. Charmer, s'égarer et mourir, c'est le titre du dernier roman de Christine Orban, consacré, devinez à qui ?
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand vous donnera l'origine des voilettes que portaient autrefois les dames à leur chapeau. On continue à parler mode sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui pour vous Franck une question de Florent qu'il nous a envoyé par mail sur europe1.fr. En feuilletant de vieux magazines, j'ai remarqué que les femmes portaient à une certaine époque des voilettes. Quelle en est l'origine et à quoi servait-elle ?
Alors l'origine, pour parler très clairement, elle est vraiment antédiluvienne. Là, ça nous ramène à la haute antiquité. Le port du voile apparaît notamment en Assyrie. Il permet de distinguer les femmes de la noblesse ou mariées d'ailleurs, de femmes de milieux plus modestes. Dans la Grèce antique, vous savez que l'épouse est tenue de se couvrir la tête. Chez les Romains, le voile est tout à fait associé à l'idée de mariage. Faudrait vraiment faire une histoire du voile, là, pour le coup, qui nous amènerait à parler de l'islam, bien entendu, etc. Donc ça, c'est le voile. Ce qu'on appelle la voilette, c'est cette espèce de petite gaz vaporeuse qu'on va voir descendre. Au départ, c'était une simple pièce de dentelle. Hein. Et puis petit à petit, avec les raffinements, là encore, dont nous parlions tout à l'heure, ça devient de cette fameuse gaz. Ça nous vient de Perse, au XVIe, XVIIe siècle. Via Venise, ça va se répandre à travers l'Europe au XVIIIe siècle. Vous savez qu'à Venise, on aimait bien se masquer, se couvrir le visage, etc. Et la voilette, telle qu'on la conçoit, la voilette au sens propre, elle apparaît en Europe au XIXe siècle, bien entendu. Donc elle est fixée au chapeau et elle fait partie, dans les dernières décennies du XIXe siècle, elle fait vraiment partie des accessoires indispensables de la tenue féminine. On voit ça dans les tableaux des impressionnistes, vous savez, notamment la célèbre femme à la voilette de Renoir. La voilette va être ensuite popularisée, mais c'est presque un effet de mode, là, pour le coup, par la styliste Caroline Reboux, qu'on appelle la reine des modistes, c'est un peu la descendante, si je puis dire, de Rose Bertin dans les années 1920. À ce moment-là, on adapte la voilette à des chapeaux beaucoup plus petits, ça va être la naissance de ce qu'on appelle les bibis, vous savez, ces tout petits chapeaux à voilette qui sont déclinés dans toutes sortes de couleurs. Et la voilette s'harmonise dans sa couleur avec le chapeau, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, c'est évidemment, vous savez, un accessoire très important pour un jour bien particulier, qui est le jour du mariage. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes ou de femmes qui, le jour de leur mariage, tiennent absolument à la voilette blanche. Mais enfin, ça, c'est déjà, comme je dis le matin à 6h25, c'est déjà une autre histoire.